Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Elle.
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 Elle nous invite chez elle, à Lisbonne, où elle s'est installée il y a 2 ans. Après le confinement, elle a quitté les réseaux sociaux, puis Paris, pour le Portugal. Une décision familiale. Leila Slimani n'a plus donné de grand entretien depuis son départ. Elle écrit « J'ai rangé mon bureau rien que pour vous », nous dit-elle, le regard franc, la parole claire et percutante. Une pièce baignée de lumière, avec vue sur le parc d'un vieux cimetière et le Tage que l'on devine au loin se jeter dans l'océan Atlantique. Nous sommes à mi-chemin entre la France et le Maroc, un juste milieu, comme elle le qualifie, qui lui convient, pour l'instant. Écrivaine, prix Goncourt, traduite dans le monde entier, Leila Slimani croit au destin, au hasard, à l'instant. Pas dupe de son image, elle refuse d'être là où on l'attend et construit une œuvre qui veut rendre à un père mort de chagrin la place qui lui revient. Parce que dans les vagues, j'interroge des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois. Ce moment où l'on se sent enfin en adéquation avec soi-même. Un sentiment de cohérence que l'on espère toutes et tous, qui arrive parfois vite, parfois tard, quelquefois jamais, qui souvent va et vient, comme les vagues. Je suis Marion Ruggieri, bienvenue dans Les Vagues, un podcast du magazine Elle. Leila Slimani, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes à Lisbonne, où vous habitez désormais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer ici ?
Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. D'abord, la douceur de vivre et puis la gentillesse des gens. C'est un pays et puis c'est une ville, Lisbonne, où les gens sont extrêmement polis, sont très calmes. C'est une ville qui est très peu dense. Donc, c'est une ville où il arrive très souvent de marcher dans la rue et d'être tout seul. C'est quelque chose qu'on ne connaît plus, par exemple, à Paris, à Londres ou dans des grandes villes comme ça. C'est une ville aussi, ça va vous paraître peut-être étrange, mais où il n'y a pas de pancarte publicitaire. Vous pourrez vous balader dans Lisbonne. Vous ne trouverez pas des grandes pancartes pour des crèmes de jour, des crèmes de nuit, des sacs, etc. Ça peut paraître bête, mais moi, c'est quelque chose, par exemple, qui me fait beaucoup de bien. C'est vrai que j'avais l'impression, dans certaines grandes villes, vous avez l'impression de vivre dans un hall d'aéroport où vous êtes entouré partout par la consommation et tout. Et Lisbonne, ce n'est pas du tout une ville comme ça. Et puis, bien sûr, la proximité de l'océan Atlantique. Moi, j'ai grandi au bord de l'océan Atlantique. Et évidemment, le fait que, en fait, c'est entre mes deux pays, c'est entre la France et le Maroc, et ça rassemble d'une certaine façon les deux meilleurs côtés de chacun de ces pays. La lumière africaine, la douceur de vivre un peu qui me rapproche du Maroc, une sorte de chaleur dans les rapports humains, l'importance de la famille, des enfants, et puis en même temps un enracinement européen, une importance donnée à la culture, un rapport au monde qui peut se rapprocher de celui de la France.
Est-ce que vous diriez que c'est la bonne distance où vous pensez bouger encore ?
En tout cas, je pense que c'était le bon endroit pour venir terminer ma trilogie, parce que je me suis lancée dans un projet qui est un projet énorme, celui d'écrire trois tomes en 6-7 ans, trois tomes sur mes grands-parents, puis mes parents, puis ensuite ma génération, donc qui couvre plus de 50 ans de l'histoire du Maroc. Il faut se rendre compte que c'est vraiment un travail titanesque en termes de documentation, en termes de concentration, de création de personnages. Donc j'avais vraiment besoin, voilà, de me mettre à l'écart aussi de toute forme de pression, d'une certaine façon, parce que je raconte en fait l'histoire de la relation entre le Maroc et la France pendant ces 50 ans, puisque ma famille, elle est faite de ça. Donc le fait d'être ici, c'est bien, parce que d'une certaine façon, ça me protège de
ces... C'est un terrain neutre.
Voilà, c'est une sorte de terrain neutre et une bonne distance pour écrire là-dessus.
Est-ce que l'écrit, c'est votre place? Et sinon, quel est cet endroit ou ce moment où vous vous êtes sentie à votre place pour la première fois?
Je crois que je ne me le suis jamais formulé en ces termes. Je ne me suis jamais formulé les choses comme ça, c'est-à-dire être à ma place, comme si... parce que ça induit une idée de légitimité, et puis il y a une petite idée d'immobilité. On a une place, donc d'une certaine façon, on a envie de la garder, on n'a pas envie qu'on vous la prenne. Moi, chez moi, c'est un sentiment beaucoup plus furtif, beaucoup plus fugace. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, très souvent même dans ma vie, d'avoir un sentiment d'harmonie ou un sentiment de joie, d'être dans un lieu, à un moment où vous vous sentez juste bien, où vous vous sentez pris par ce qui se passe autour de vous. Ça m'est arrivé beaucoup la nuit. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup aimé la nuit, j'ai beaucoup aimé faire la fête, j'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup être avec des amis. Et ça, c'est par exemple, souvent j'ai eu ce sentiment-là, quand vous êtes en train de danser, entouré de plein de gens, le sentiment d'être bien, d'être en harmonie, d'être à la fois seul et en même temps aimé, entouré, d'être au bon endroit. Mais ça m'arrive aussi dans l'extrême solitude, quand vous avez ce que j'appelle les moments magiques, c'est-à-dire ces moments où vous vous mettez à écrire, puis d'un coup vous levez les yeux et vous vous rendez compte que 3 heures sont passées et vous avez l'impression qu'il s'est passé 10 minutes. Là, c'est un sentiment d'harmonie et de présence au monde qui est très, 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 très fort. Mais vraiment, pour moi, ce n'est pas un sentiment d'être à ma place. Et au contraire, c'est le sentiment que quelque chose va très vite disparaître et qu'il faut le saisir et qu'il faut, voilà, accepter que justement, ce n'est pas une question de place, ce n'est pas une question... C'est juste une harmonie, voilà, qui s'est construite à un tout petit moment. Puis moi, je crois beaucoup au destin. Donc, je pense qu'il faut se laisser embarquer dans sa vie, dans son destin, et essayer juste d'être présent dans les moments qui sont des moments dont on sent qu'ils ont leur importance, leur beauté, qu'ils ont une densité un peu plus forte. Et puis, je dirais finalement que peut-être les moments où on se sent le plus à sa place, tout simplement, c'est quand on est aimé, quand on se sent aimé. Se sentir à sa place, c'est se sentir aimé. Quand on a le regard d'un enfant sur soi, le regard de sa mère, le regard de la personne qui vous aime, d'un coup, on se sent, voilà, tout à fait à sa place.
Est-ce que de bouger, de déménager, a changé quelque chose dans votre rapport à l'écriture? Un déplacement où l'écriture, c'est juste vous?
Non, je crois que ça a changé quelque chose. Et je crois que d'ailleurs, je ne mesurais pas à quel point ça allait être difficile et beaucoup plus traumatique que ce que je pensais. On dit souvent que les déménagements sont parmi les événements les plus traumatiques d'une vie. Et c'est quelque chose que j'avais oublié. Et en fait, quand je suis arrivée ici, j'ai mis vraiment du temps à m'habituer. J'ai mis du temps à me remettre à écrire, à retrouver mes marques. Moi, je suis un peu comme je fonctionne beaucoup comme un animal. Moi, j'ai besoin de mon terrier, j'ai besoin d'avoir un lieu familier avec des objets qui ont trouvé leur place, qui sont là où il faut. Et donc, ça prend du temps. Et comme je suis quelqu'un de très impatient, ça m'a fait un peu souffrir, voilà, de devoir attendre, de trouver la juste place pour chaque chose. Donc, ça a changé, oui, un peu ma façon d'écrire, parce que c'est une ville aussi, Lisbonne, où je profite plus de l'extérieur, où je me promène, où je fais plus de sport. Ici, le soleil, le beau temps fait qu'on a toujours envie de passer un peu de temps dehors. Donc, je suis moins casanière qu'avant. Donc, forcément, ça change aussi le rapport à l'écriture. Ça l'aère un peu. Ça apporte aussi un peu de lumière, un peu de végétation, autre chose, une déambulation.
Il faut dire que cette pièce où l'on vous interviewe et votre bureau est extrêmement lumineux et on voit que chaque chose a sa place. C'est très ordonné, y compris les post-it qui tapissent le mur. Post-it en rapport avec le livre que vous écrivez en ce moment. Est-ce que là, vous avez un objet fétiche, un objet qui ne vous quitte pas dans ce bureau ?
Ah oui, oui, j'en ai plusieurs. Le premier, c'est ce tableau de Milan Kundera. Donc, ce sont des dessins de Milan Kundera sur lesquels il a écrit « Merci pour votre roman ». Donc, je lui avais envoyé mon premier roman dans le jardin de l'ogre. Et ça, je crois que c'est le plus beau, vraiment le plus beau cadeau que j'ai reçu dans ma vie d'écrivaine. C'est vraiment un objet auquel je tiens énormément. Et puis, il y a cette photo de mon arrière-grand-père que j'aime aussi beaucoup parce que elle m'évoque un temps disparu, une époque disparue, et en même temps, elle me relie à un certain passé. Donc, comme je suis en train d'écrire aussi sur le passé, sur les racines, sur l'héritage, sur la transmission, ça me plaît de regarder cette photo pendant que j'écris.
Et est-ce que vous m'autorisez à lire ces quelques lignes
Bien sûr.
Qui sont écrites ici ? Écrire, je ne peux pas. Personne ne peut. Il faut le dire, on ne peut pas, et on écrit. C'est l'inconnu qu'on porte en soi. Écrire, c'est ça qui est atteint. C'est ça ou rien. C'est votre devise ?
Oui, absolument. Absolument. Et puis, quand on passe des heures et des heures dans une pièce comme ici, il y a beaucoup de moments où on ne fait rien. Il y a beaucoup de moments où on n'écrit pas, où on est juste assis à réfléchir, parfois à désespérer. Et c'est vrai que souvent, je tourne mon visage vers cette affiche et puis je lis ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne une certaine force parce que je me dis, oui, personne ne peut. On ne peut pas. Elle-même, Marguerite Duras, qui a écrit ça et que j'admire énormément, ne pouvait pas. Ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de frustration, ce sentiment d'impossible. Et donc, c'est quelque chose qui me soutient. En fait, tous ces objets qui sont là, ils sont là pour me soutenir dans ce cocon dans lequel je m'enferme, qui peut être un cocon agréable, mais qui est aussi parfois étouffant. On vit très, très enfermé et la vie est dehors. Il y a beaucoup de choses à faire dehors. On peut voir ses amis, s'amuser, aller au cinéma, passer du bon temps, rire, ne pas réfléchir à demain, être insouciant. Et moi, c'est quelque chose que je me refuse. Et parfois, je me dis, mais est-ce que c'est pas fou de faire ça, de me refuser à la vie, de vivre enfermé comme ça, dans un monde de fiction, avec des gens qui n'existent pas? Est-ce que j'ai pas tort, finalement, de ne pas vivre? Donc, voilà, j'ai besoin de me dire qu'il y en a d'autres qui ont fait la même chose.
Est-ce que parfois, le dehors prend le pas? Est-ce que parfois, la vie est plus forte?
C'est très rare, c'est très rare. Mais il y a quelques mois, oui, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je retourne dehors. Il y a quelques mois, j'ai eu le sentiment que j'en pouvais plus des livres. Même les lire, c'est-à-dire les lire, les écrire. J'avais l'impression que les livres étaient devenus comme une sorte de cape d'invisibilité, quoi, que je me mettais dessus pour disparaître, comme une sorte d'excuse pour ne pas vivre. Vous savez, quand vous écrivez, finalement, les gens autour de vous s'habituent à ça. Donc, on vient vous voir, il y a une fuite d'eau ou votre fils a besoin de je sais pas quoi. Puis vous dites, moi, c'est pas mon problème, j'écris. Et finalement, plus rien n'est votre problème. Et puis, finalement, les gens finissent par ne même plus vous dire qu'il y a une fuite d'eau et que votre fils a mal aux dents ou que votre fille a sa parade d'Halloween ou je sais pas quoi. Et donc, vous vous isolez de plus en plus et vous finissez par oublier qu'il y a une vie dehors. Donc, c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu le sentiment que j'avais besoin de retrouver juste le goût de vivre, quoi. La vie dans ce cas-là de plus simple et de plus ordinaire et de plus beau en même temps.
Est-ce qu'on peut dire que vous aimez vous sentir partir ?
Ah oui, absolument. Moi, j'aime me sentir partir, j'aime me sentir, d'ailleurs dans tous les sens du terme, hein. Moi, j'aime me sentir disparaître. J'aime bien, d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Lisbonne, j'aime bien qu'on ne sache pas qui je suis. J'aime bien être dans un environnement, au début j'aimais bien quand je ne comprenais pas la langue, parce que j'avais l'impression d'être comme seule quelque part, voilà, où je
vous
pouvais juste
griser.
Voilà, observer. J'aime beaucoup ça.
Vous avez passé 18 ans, c'est ça, à Paris ?
J'ai passé 20 ans. 20 ans,
20
à,
ans
Paris,
à Paris. Ouais. Le jour où vous avez quitté votre appartement, vous êtes dit quoi ?
Bon, d'abord, je me suis dit que je quitterais jamais vraiment Paris parce que c'est une ville avec laquelle j'ai des liens trop forts. Parmi mes meilleures amies habitent à Paris, mes sœurs, mes deux sœurs habitent à Paris, ma mère y vit une partie du temps. Donc c'est une ville pour moi qui reste ma ville. C'est-à-dire que même si j'habite à Lisbonne, je suis toujours, une part de moi est toujours parisienne. Et puis c'est une ville où je retournerai. Ça, je suis certaine que je retournerai vivre à un moment à Paris. Je pense que c'est des histoires de période. Il y a des moments où on a besoin d'autres choses, mais c'est pas du tout une ville à laquelle je tourne le dos. Je reste très très impliquée dans tout ce qui se passe en France. Je lis les journaux français tous les jours. C'est mon pays, donc voilà, tout ce qui s'y passe m'intéresse.
Quel était ou quel est votre rapport au milieu parisien et littéraire?
Je dirais que le milieu littéraire, il a deux faces. Il a une face qui est lumineuse, qui est incarné par des gens que j'aime et que j'admire, qui sont écrivains, qui sont éditeurs. Puis c'est un milieu littéraire qui est vraiment à part, même dans le reste du monde. Moi, j'ai la chance de connaître des milieux littéraires dans d'autres pays. Je crois qu'il n'y a aucun pays qui, comme la France, donne une telle importance à sa littérature, à ses écrivains, qui les met autant en valeur, qui leur demande autant leur avis sur le monde. Donc il y a une face très lumineuse et il y a une face beaucoup plus sombre, qui est que c'est un monde dans lequel on cultive beaucoup l'entre-soi, que c'est un milieu qui peut être très cruel, extrêmement cruel. C'est un milieu dans lequel il faut faire d'une certaine façon ses preuves pour y entrer. Et puis, il y a des sortes de petits rites initiatiques qui ne sont pas forcément agréables, qui peuvent même évoquer parfois des trucs un peu... Ça me fait parfois penser aux films ridicules ou à ce genre de... Voilà, ce genre d'atmosphère un peu où on peut se moquer de quelqu'un. Ça peut être assez moqueur. Et puis, c'est un milieu où, comme il y a de la rareté et comme il y a des prix, etc., bah c'est un milieu qui a aussi sa part de corruption, qui a aussi sa part de petites histoires qui ne sont pas forcément très recommandables. Donc il y a une face lumineuse et une face très, très sombre qui, pour le coup, elle me déplaît beaucoup.
Vous avez été témoin de cette face sombre ?
Ah oui, j'en ai été témoin. J'en ai été parfois victime et j'ai connu des gens qui l'ont été. Je suis d'ailleurs assez étonnée, mais bon, c'est peut-être parce que c'est un petit milieu que tout ça tienne. Je pense que ça ne tiendra pas éternellement. Il y a des choses qui finiront par se défaire, mais oui, c'est un milieu qui est assez dur.
Victime, c'est-à-dire ?
Bah, vous savez, c'est un milieu qui est assez masculin. Bon, il y a maintenant quand même des femmes éditrices qui commencent à devenir plus nombreuses et je trouve ça merveilleux, mais c'est quand même un milieu qui reste assez masculin et qui l'était encore plus quand moi j'ai commencé il y a une dizaine d'années. C'est un milieu très très blanc. Il y a très très peu, je vous mets au défi de citer 4 ou 5 éditeurs qui soient des éditeurs d'origine maghrébine ou d'origine d'Afrique subsaharienne ou qui aient une autre vision du monde. Donc c'est un milieu où parfois, sans s'en rendre compte, hein, peut-être avec de très bonnes intentions, quand on est la personne que je suis, les gens peuvent vous dire des choses qui sont extrêmement déplaisantes, qui sont très vexantes et qui le sont d'autant plus que ce sont des gens qui sont censés incarner un certain élitisme intellectuel, qui sont censés être des gens qui ont lu, quand vous avez des blagues répétées sur, je sais pas, sur les Marocains, sur la Gandoura, sur, enfin vraiment des choses d'un cliché pas possible, c'est vrai que c'est assez désespérant.
Et ça, vous l'avez, vécu.
Ah oui, je l'ai vécu beaucoup.
C'est aussi ça que vous avez voulu quitter ?
Oui, ça aussi, j'ai voulu le quitter, même si je ne veux pas du tout me dépeindre en victime. Hein, il ne s'agit pas du tout de ça. Mais de toute façon, je pense que pour un écrivain, ce n'est pas bon, en tout cas pour ma vision à moi de l'écriture. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Mais je ne crois pas que ce soit bon de vivre à l'intérieur d'un milieu. Et parce qu'on finit par devenir Leïla Slimani. En fait, on finit par devenir une figure. On n'est plus vraiment soi-même. On finit toujours par entendre les rumeurs qui circulent et qu'est-ce qu'on dit de vous et qu'est-ce qu'on dit d'un tel. On finit par céder à une forme de médisance, on écoute les potins. Et moi, je n'aime pas du tout ça et je n'avais envie ni d'en être victime ni de faire que des gens en soient victimes
de
ma part. Voilà. Et puis, je n'aime pas ça. Donc, moi, j'aime beaucoup la distance. J'aime beaucoup être à distance des choses. Je pense que c'est ça qui fait la beauté du métier d'écrivain, c'est de regarder les choses à une certaine distance, à la fois dans l'espace et dans le temps.
Comment vous l'avez découvert, ce milieu ?
Bah, je l'ai découvert de manière plutôt agréable. Enfin, moi, quand je suis devenue écrivain, quand j'ai commencé à publier en 2014, je me suis très rapidement fait des amis. J'ai des très, très bons amis aussi dans ce milieu. Donc, je l'ai découvert beaucoup à travers les festivals, qui sont des moments quand même très sympas, très agréables, où, au-delà du fait de rencontrer les lecteurs, de passer du temps avec les lecteurs, on passe aussi du temps avec ses copains écrivains. C'est des moments où il y a beaucoup de convivialité. On va dîner ensemble, on boit des coups, parfois on va danser. Donc, c'est des moments qui peuvent être vraiment très sympas et on se fait des amis qui restent des amis pour longtemps. Je dirais que je l'ai connu d'abord de manière assez festive. Après, plus les années passent et plus vous occupez aussi une place justement dans un milieu. Alors, quelle est votre place? Est-ce que vous êtes en haut, en bas? Il y a une sorte de hiérarchie qui se crée, on crée une sorte de personnage. Alors moi, j'étais...
Et selon vous, alors, c'était quoi votre place?
Bah, moi, j'étais la Goncourt maghrébine qui avait eu le Goncourt assez jeune. Donc, à la fois, quelqu'un qui incarnait une forme de succès, mais à qui, en même temps, voulait faire sentir que ce succès, il lui était venu aussi parce qu'elle était une femme et qu'elle était maghrébine et que donc il y avait un soupçon finalement d'illégitimité derrière. Donc voilà, on vous construit une espèce de place. Et moi, je n'aime pas du tout ça. Je ne crois pas du tout. D'une part, je ne crois pas que ce soit vrai. Puis, je ne crois pas qu'on puisse réduire qui que ce soit à ça. Moi, je pense qu'il faut toujours être en mouvement parce que quand on est en mouvement, on reste insaisissable, quoi. Il faut être comme une anguille ou comme un poisson. Il faut glisser entre les mains des gens. Il ne faut jamais se laisser saisir, quoi.
J'imagine que ce milieu qu'on évoque devait être très différent du milieu dans lequel vous avez grandi. À quoi ressemblait votre enfance, Leïla Slimani, si elle devait s'incarner en une scène?
Si elle devait s'incarner en une scène, ce serait sans doute un repas de Noël. J'ai grandi dans une famille qui accordait une grande importance à la famille. Donc, on aimait beaucoup se réunir, on aimait beaucoup parler. C'était une famille très, très féminine. Les personnages féminins étaient plus importants, plus bruyants, plus imposants que les personnages masculins, qui avaient aussi, hein, bien sûr, leur part d'importance. Hein. Mais je dirais un repas de Noël avec le fait qu'on fêtait Noël, mais qu'en même temps, mon grand-père, qui était musulman, était lui aussi pratiquant, pouvait tout à fait prier quelques heures avant qu'on fête Noël. Le fait qu'on parlait beaucoup, on riait, on se faisait des cadeaux, on se disait qu'on s'aimait, mais que très souvent, à la fin du repas aussi, on s'engueulait, que quelqu'un finissait par se lever de table en disant « je te parlerai plus jamais », puis qu'on se reparlait. Donc, voilà, une ambiance assez joyeuse, mais en même temps, je dirais que finalement, il y avait des choses qui se recoupent avec ce que je disais sur le milieu littéraire, parce que je vivais dans un milieu assez bourgeois. Un milieu francophone, francophile. J'ai eu une éducation très protégée. Ma mère était quelqu'un d'assez anxieux, d'assez inquiet, qui avait toujours peur qu'il nous arrive quelque chose et qui peut-être nous a un peu surprotégés. Donc, on a grandi dans une bulle. Et ma mère avait peur non seulement des dangers qui pouvaient exister à l'extérieur, mais elle avait peur aussi parce qu'on vivait dans le Maroc des années 80-90, qui était un Maroc dans lequel il y avait une dictature. Le roi Hassan II était un roi très dur, on ne pouvait pas parler librement, il n'y avait pas de liberté d'expression des journaux, il fallait faire attention à ce qu'on disait. Donc quand même, j'ai aussi un souvenir de quelque chose de très contenu, d'un certain conformisme. Il fallait se conformer à la façon dont les gens vivaient. Même si c'était pas vrai, il fallait faire semblant d'eux. Donc, c'est ce que je retiens. C'est-à-dire quand même quelque chose d'assez compassé qui m'a un peu, moi, donné envie de tout faire exploser.
Votre père, il occupe une place à part dans votre histoire. Pouvez-vous nous raconter l'homme qu'il était? Et même si vous gardez un souvenir en particulier de lui.
Je pourrais pas vraiment vous raconter l'homme qu'il était, c'est tout le problème. Il y a pas très longtemps, il y a quelques années, j'ai demandé à ma mère qui était mon père. Je lui ai dit finalement, mais qui c'était ? Et elle m'a dit, écoute, je ne sais pas. Donc je ne peux pas dire qui était mon père. J'ai perçu des choses de lui. Est-ce que ces choses-là sont vraies ou pas? Je ne sais pas. Et c'est un homme donc, qui a connu une carrière fulgurante dans le domaine de l'économie. Il a été ministre, puis président d'une banque. Et puis il a perdu son travail quand j'avais 12-13 ans, en 93-94. Et ensuite, il est resté à la maison jusqu'à l'âge de 61 ans, où il a été mis en prison. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que c'était un homme extrêmement mystérieux, un homme d'une intelligence, je pense, hors norme, qui a été peut-être aussi son malheur, sa malchance, parce que c'était quelqu'un qui était très intelligent, mais qui avait beaucoup de mal à mettre les formes. Donc, il pouvait être très arrogant, très écrasant aussi, par du fait de cette intelligence. C'était quelqu'un qui manquait de rondeur, quelqu'un de très curieux, qui adorait lire. Moi, mes souvenirs de lui, c'est que mon père était toujours assis à la même place, au salon. Voilà, il avait un endroit où il était assis, puis il mettait ses livres par terre, il fumait la pipe ou des cigarettes, et puis il restait là, et il est resté là pendant des années et des années. Je l'ai toujours vu là, comme ça, immobile, et il attendait quelque chose. Il attendait que quelque chose se passe, et il ne s'est jamais rien passé.
Il attendait quoi, selon vous ?
Bah, je pense qu'au début, il attendait un coup de fil, il attendait qu'on l'appelle, qu'on lui propose quelque chose, un poste, qu'on lui dise c'était une erreur, on est désolé, on s'est trompé, que les gens disent c'est une injustice. Et en fait, le téléphone, très rapidement, a arrêté de sonner. Et puis, je pense que lui, au bout d'un moment, a arrêté d'attendre. Mais il a développé autre chose, il a développé une très grande profondeur. C'était quelqu'un qui finalement a fini par développer un rapport assez tendre à la condition humaine, à la nature humaine, se disant « bon, ben, j'ai beaucoup cherché le succès, j'ai beaucoup cherché le paraître, j'ai voulu assouvir mes ambitions, et finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est pas grand-chose. » Il s'est beaucoup recentré sur sa famille, sur des valeurs plus essentielles, sur la transmission à ses filles. Donc je crois qu'il a quand même un peu tirer les leçons de ça sans devenir amer. Il n'a jamais été amer.
Pour rappel, il a été blanchi 6 ans après sa mort. Est-ce que vous lui ressemblez physiquement ou intellectuellement ? Est-ce que vous aussi, vous avez tiré des leçons de son histoire ?
Oui, je lui ressemble. Je lui ressemble beaucoup physiquement, de plus en plus d'ailleurs. Donc je ressemble de plus en plus à un homme. j'ai son front, en fait. Mon père avait un très grand front, donc j'ai le même front que mon père. Intellectuellement, je crois que je lui ressemble aussi un peu. En tout cas, c'était mon souhait quand j'étais petite. Moi, je voulais lui ressembler. C'était quelqu'un que j'admirais beaucoup, qui me paraissait inaccessible, insaisissable, très, très impressionnant. D'abord parce que mon père avait une voix vraiment à part. Il avait une voix caverneuse. Il avait vraiment une voix comme Louis Armstrong. Quand je l'entendais rentrer à la maison et que j'entendais Leïla, comme ça, dans le couloir, c'était... J'avais très très peur de cette voix, ça m'impressionnait vraiment beaucoup. Et puis comme je vous disais, c'était quelqu'un qui pouvait être très écrasant. Si on lui donnait notre point de vue, on développait un avis et qu'il trouvait ça bête, il allait vous dire c'est complètement stupide. Donc je voulais pas être prise en défaut par mon père. Donc je crois que c'est grâce à lui ou à cause de lui, je sais pas comment je dois le formuler, que j'ai commencé à beaucoup lire, que j'ai commencé aussi à développer une certaine rigueur parce que je voulais pas me retrouver écrasée justement par cette intelligence. Je voulais pouvoir parler avec lui et c'était pas facile de parler avec lui. Il fallait vraiment vraiment faire ses preuves.
Il paraît que votre père vous appelait ma bouche. C'est vrai ?
Oui, il m'appelait « c'est ma bouche » parce que quand j'étais petite, j'avais 5 ou 6 ans, il m'a grondée pour quelque chose et je lui ai répondu. Il m'a dit « on ne répond pas à son père ». Je lui ai dit « c'est ma bouche » et je dis ce que je veux. Et en fait, ça lui a beaucoup plu. Ça l'a fait beaucoup rire. Et puis, à partir de là, il m'a toujours appelé « c'est ma bouche ». Et moi, de toute façon, j'avais une personnalité comme ça. J'étais extrêmement bavarde quand j'étais petite, vraiment très, très bavarde. Et maintenant, j'ai une fille qui est très, très bavarde. Donc, je perçois ce que mes parents pensaient de moi. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup plus de compassion et d'empathie à leur égard maintenant que j'ai ma fille merveilleuse qui est très, très bavarde. Mais je me souviens de mon père qui disait « mais c'est pas possible. Est-ce qu'on peut pas appuyer sur pause ? Est-ce qu'on peut pas la faire taire ?» J'avais tout le temps quelque chose à dire, une histoire à raconter. Donc, voilà. On m'appelait « c'est ma bouche », j'étais très loquace.
Le 3 novembre 2016, vous remportez le prix Goncourt pour une chanson douce. Vous avez 35 ans, le monde entier vous découvre. Vous pensez à lui à cet instant ?
Bien sûr que je pense à lui. Je crois que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. J'ai pensé à mon père. D'ailleurs, je dirais même que j'ai même pensé que c'était grâce à lui que je l'avais eu. Je me suis même dit, quelque part, en haut, il a dû participer à quelque chose. Mon père est un peu comme mon ange gardien, ma bonne étoile. J'ai toujours eu le sentiment, depuis qu'il est mort, qu'il veillait sur moi. Ou qu'en tout cas, oui, il participait à faire que les planètes s'alignent. J'ai ce sentiment de protection très fort. J'ai pensé à lui, mais j'ai aussi beaucoup pensé à ma mère. J'ai pensé énormément à ma mère qui a tout fait pour qu'on puisse, mes sœurs et moi, alors que mon père ne travaillait plus, qu'on puisse étudier, qu'on puisse aller en France, qu'on puisse faire les activités qu'on avait envie de faire, qu'on puisse mener la vie qu'on avait envie de mener, puis par son exemple, c'est-à-dire son exemple de femme qui travaillait, qui était en même temps une mère très impliquée, merveilleuse, mais une femme très indépendante.
Vous vous sentiez à votre place ce jour-là ? Vous étiez au bon endroit ?
Je le dirais pas comme ça, parce que en fait, c'était très amusant. Moi, je l'ai vécu de manière très amusante.
Comment ça s'est passé, cette journée ?
Je me suis pas du tout dit, quand j'étais assise au milieu du jury chez Drouhan, je me suis pas du tout dit, ah, là, ça y est, tu es à ta place. Au contraire, moi, j'ai trouvé ça très incongru. Je trouvais ça vraiment très rigolo. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Je voyais les gens me photographier, puis je me disais, c'est pas possible, je vais me réveiller, il y a quelque chose qui est pas... Enfin, c'est pas logique. Donc, je me suis beaucoup amusée, précisément parce que j'ai pas pris le truc très au sérieux. Enfin, je l'ai pris au sérieux dans la mesure où j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai essayé de tenir mon rang le mieux possible. Mais je trouvais surtout ça amusant. Et puis surtout, je savais que c'était fugace, enfin, que ça allait passer très vite, que c'était un moment joyeux, qui allait passer très vite. Et donc, je l'ai vécu comme tel. Mais j'ai pas du tout eu le sentiment, un sentiment d'être à ma place.
D'être arrivé.
D'être arrivé, que d'un coup, quelque chose allait se passer. C'était... j'ai envoyé des photos à mes sœurs, des photos à ma mère. Et puis, ma mère et mes sœurs, elles ont toujours ce côté un peu moqueur. Donc, elles m'envoyaient des blagues, elles se foutaient un peu de moi, de ma coiffure ou de ma robe et tout. Donc, justement, elles me remettaient à ma place, qui est celle d'être la fille de ma mère et la sœur de mes sœurs.
Les regards ont bougé sur vous à cet instant ?
Oh oui, complètement. Ouais, tout a changé. Vraiment, à partir de ce moment-là, le regard des gens a beaucoup changé. Je me souviens que pas très longtemps après, dans la rue, quelqu'un a dit... deux personnes marchaient dans la rue en face de moi, et l'un me montre du doigt et dit « Regarde, c'est le Goncourt ». Et c'était très étrange, parce qu'il n'a pas dit mon nom, c'est pas quelqu'un qui aimait mes livres ou qui est venu me parler. Il disait « c'est le Goncourt ». Donc d'un coup, j'ai compris que c'est aussi quelque chose qui vous réifie, vous devenez une chose, vous devenez le Goncourt. Dans mon cercle proche, ça n'a rien changé. Au contraire, comme je vous disais, je pense que ma famille, ils ont eu vraiment à cœur de me remettre à ma place, de tout faire pour que je garde la tête froide. Pas parce qu'ils avaient peur que je soit arrogante, mais peut-être plutôt par souvenir de ce qui s'était passé, et donc par peur que je sois déçue, ou par peur que finalement les choses se passent pas comme je l'imagine, ça revienne à la normale et que je sois triste, j'en sais rien. En tout cas, ils m'ont protégée de ça pour que vraiment je continue à rester concentrée sur mon travail et sur ce que je suis.
Écrire, c'est une manière de le venger, ce père auquel vous faites référence et dont on a parlé. Est-ce que vous arrivez à écrire sur lui aujourd'hui ?
Oui, c'est une manière de le venger, mais pas seulement lui, c'est une manière aussi de venger ma mère, c'est une manière de me venger. Bien sûr, le venger lui parce que, d'une certaine façon, laver son nom, c'est-à-dire que ce nom-là, Slimani, ne soit plus associé seulement à ce scandale et à cette injustice et à cette tragédie, mais soit associé à quelque chose de plus heureux et de quelque chose qu'il aime, en plus, qui était la littérature. Mais venger aussi ma mère, qui a beaucoup souffert pendant cette période et qui a tout investi dans l'éducation de ses filles. Et donc, c'est une manière aussi de lui rendre, pour moi, ce qu'elle m'a donné et de lui dire que ce rêve qu'elle a poursuivi avec moi, parce que ma mère m'a toujours épaulée. Moi, avant de publier ce roman, j'en ai écrit des romans, des romans pas terminés, des romans nuls, des ébauches. Donc, c'est une manière de la venger, elle aussi, puis de me venger, moi, parce que Finalement, j'ai eu l'impression aussi souvent de ne pas être considérée ou que mes rêves à moi d'écrire, bon, les gens trouvaient ça un peu ridicule. Il y a une phrase de Gertrude Stein que j'aime vraiment beaucoup qui dit « Souvent dans la vie, vous avez le sentiment qu'on vous dit non. » Dans une vie, on fait beaucoup l'expérience du non. Des gens qui vous disent non, non, tu ne peux pas faire ça, non, c'est trop pour toi, mais non, ce rêve est irréalisable. Et donc, vous faites face à plein de non. Et puis, un jour, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit oui. Et moi, cette personne, c'est Jean-Marie Laclaftine, mon éditeur, et il m'a dit oui. Il a perçu quelque chose en moi que personne n'avait jamais perçu. Dans le brouillon que j'étais, dans la colère que j'étais, dans ce truc un peu confus, il a perçu quelque chose de plus, une sorte de lame, quelque chose de plus précis, et qu'il fallait juste que j'aille vers ça, que j'ai pas peur de cette violence et de cette colère.
Petite question pour finir. Est-ce que vous êtes déjà senti irremplaçable ? On parlait d'amour. Ça peut être...
Oui, absolument. Bah voilà, quand on se sent aimé, on se sent irremplaçable. Dans le regard de ma mère, je me suis toujours sentie irremplaçable, et dans celui de mes sœurs depuis toujours, parce qu'en plus, dans notre sororité, toutes les trois, on a chacune notre rôle, chacune ses spécificités, et donc chacune est irremplaçable parce que chacune apporte quelque chose à ce qu'on appelle le clan, puisque nous sommes un clan toutes les quatre. Donc oui, avec mon clan, je me suis toujours senti irremplaçable.
Votre rôle à vous, c'est lequel ?
Bah, c'est ma bouche, c'est-à-dire de beaucoup parler, d'être très passionnée et puis de les faire rigoler.
Leïla Slimani, merci infiniment.
Merci beaucoup.
De nous avoir reçus ici chez vous.
Merci.
Je suis Marion Ruggieri. Vous venez d'écouter Les Vagues, un podcast du magazine Elle. Cet épisode a été tourné par Ruben Pérez et mis en musique par Sam Jamin, monté par Julia Courtois, produit par Louis Média. La musique est signée Michael Lio. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Et parlez-en autour de vous. À très vite.